Vivre, c'est respirer, et respirer, c'est sentir. Alors vivre, c'est sentir. Je suis Mathilde Laurent et vous écoutez Inspire, le podcast en live olfactif de la Maison Cartier. Avec ce podcast, je souhaite offrir à chacun un moment initiatique, sentir avec une parfumeur dans son laboratoire les parfums qu'elle a créés et explorer le pouvoir tant méconnu de l'olfaction en compagnie d'invités que j'ai choisis à l'instinct pour découvrir leur mystérieuse, une de mes parures invisibles.
Je dirais que lorsque je me parfume, je viens parfaire une tenue, mon image finalement, et lui donner une couleur supplémentaire, une dimension supplémentaire, la façon dont j'ai choisi de m'habiller tel ou tel jour. Je suis Arnaud Robottini, je suis compositeur de musique, auteur, chanteur, producteur, voilà. Et c'est plutôt un message envoyé à l'autre, et un rapport évidemment de séduction. Dans une rencontre, on est interpellé par le parfum de l'autre. Séduction, c'est peut-être trop fort, mais en tous les cas, un message de bienvenue ou d'accueil. J'essaie de trouver quelque chose qui correspond à ma personnalité. Je change assez rarement, en fait. Je mets souvent le même. Et voilà, c'est quelque chose qui vient me compléter d'une certaine manière.
Je crois que je me parfume parce que j'ai l'impression d'être à la fois plus forte et peut-être plus belle aussi. Je suis Elisabeth de Fédo, je suis historienne des parfums et écrivaine. Ça me grandit d'une certaine manière. Et comme je porte toujours le même parfum, pratiquement toujours le même, je dis toujours en parlant de lui que c'est ma pantoufle de verre. C'est-à-dire que je suis à la fois, c'est le mythe de Cendrillon quoi, je suis à la fois bien dedans, confortable et transformée.
Justement, là, on est entré de plein pied dans la parure parce qu'en fait, on voit que les raisons de se parer peuvent être complètement multiples et peuvent être intérieures ou extérieures. Et quand on crée un parfum, on va plutôt se concentrer sur le plaisir, sur la forme esthétique, en espérant en fait que c'est cette forme esthétique qui va toucher la personne, et c'est parce que on est touché par une forme de beauté qu'on va greffer sur cette beauté en fait sa forme de parure, son besoin de parure. C'est la beauté qui va combler le besoin. C'est la sensation de beauté. D'ailleurs, on dit se sentir beau, se sentir belle. Donc, c'est vraiment une parure olfactive qui peut effectivement apporter cette sensation de beauté et de finitude.
Comme la musique, on va mélanger des timbres, des notes, des rythmes, des fragrances, des plantes, des huiles, pour créer un message auquel le langage ne répond pas. Jacques Lacan parlait du trou du langage pour la musique. C'est un grand mystère dans l'expression. En fait, il y a plein de choses qui sont extrêmement difficiles à dire.
Alors, je vais ouvrir donc ce flacon dont le bouchon est aimanté.
On va, ouais, on entend.
On entend le.
Voilà. On va lui faire un.
Et puis, on va pouvoir voilà le poser le bouchon et puis prendre une mouillette. Ces mouillettes
sont super
qui bien. Reprennent en fait le bestiaire de haute joaillerie de la Maison Cartier. Donc là, on découvre voilà ce qu'on appelle les notes de tête du parfum, et donc on est immédiatement plongé dans quelque chose de très doux, de très envoûtant, d'assez profond. On plonge immédiatement dans l'encens. J'ai voulu que l'encens soit au centre du débat, qu'on le sente tout de suite, qu'on sente ses propres notes de tête qui sont assez fraîches, assez fusantes, un peu acidulées, un peu aldéhydées. On est tout de suite dans quelque chose d'assez mystique parce qu'on est projeté dans ces odeurs, en fait, qu'on a senties dans certains temples, dans certaines églises. Et l'encens a une dimension pour tous, en fait, qui est plus ou moins liée à des lieux de culte. Donc, tout de suite, en fait, on est comme invité à rentrer en soi. La culture de cet ingrédient, en fait, nous amène à vraiment se retirer quand on sent des notes en sang comme ça aussi présente.
En fait, effectivement, il y a comme en musique, on parlerait d'une attaque, hein, c'est-à-dire vraiment le début d'un son qui est effectivement très frais, qui charme tout de suite, je trouve. Mmh. Et après, effectivement, il y a le moment, ce qu'on appelle sustain, le moment où le son vient à maturité, à l'équilibre, où il y a effectivement la notion d'encens comme ça. Arrive, effectivement, il y a un côté un peu mystique. Enfin, ouais. Après, la mystique, l'encens, ça évoque tout de suite l'orgue. Et, pour moi, orgue et mystère, alors, je penserais aux pièces pour orgue de Messiaen, qui sont absolument magnifiques.
C'est génial, parce qu'on est en train de sentir l'heure mystérieuse. Et pour moi, ça, c'est ce que devrait toujours accomplir un parfum. Pour moi, le fait que ça t'évoque le mystère et des pièces mystiques comme ça de Messiaen, en fait, ça me donne l'impression qu'il se passe quelque chose de juste. Pour un parfumeur, c'est quelque chose d'inestimable, en fait, d'avoir l'impression que ce qu'on a essayé de dire, ce qu'on a essayé de montrer, est ressenti et que finalement, peut-être qu'on a capté quelque chose d'universel, en fait, qui va rebondir chez chaque senteur, chez chaque humeur.
Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce que disait Mathilde en sentant l'heure mystérieuse, c'est que c'est aussi le parfum de l'encens qui nous invite à prendre le temps, à prendre conscience, en fait, justement comme en musique, à la fois du mouvement et des soupirs aussi, hein, des temps où il n'y a pas de son. Tout d'un coup, ça se suspend. Et traditionnellement, au Japon, l'encens servait à mesurer le temps. C'était une fonction traditionnelle. Mmh. Et oui, on écoute les parfums au Japon, dans la cérémonie du Kodo. Donc ça, je trouve qu'effectivement, on a cette sensation de soupir, d'élévation, de temps suspendu. Et également, il y a la fraîcheur de l'encens, qu'on sent tout de suite, et ce côté un petit peu engourdissant, qui a été utilisé d'ailleurs dans les temples en Mésopotamie et en Égypte ancienne, parce que le but était d'engourdir les fidèles pour arriver à une forme de méditation, d'élévation, c'est-à-dire en fait rendre le culte aux dieux. Et donc l'encens, c'est ça aussi. C'est la mesure du temps, c'est l'engourdissement des sens pour méditer, pour s'élever, pour prier, et aussi c'est honorer. Donc honorer la divinité et aussi honorer l'autre par les fumigations, comme on a encore dans le monde arabe. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'encens, c'est ce qui brûle. Ce n'est pas uniquement l'oliban, c'est tout ce qui brûle. Et dans le monde arabe, il y a encore ces fumigations pour les invités, pour les honorer. Et je trouve qu'on le ressent très très bien dans l'heure mystérieuse. Et effectivement, il y a aussi tout le mystère qui s'accomplit, quoi.
Pour moi, la parfumerie est vraiment un média, un vecteur de méditation. On entre en fait dans quelque chose qui vous happe et tout d'un coup, en fait, la conscience en est modifiée. Et on le visite et justement, on oublie le réel et on est dans cette espèce d'état d'éveil beaucoup plus fort. On est réceptif à une beauté, en fait, qui élève l'âme, qui élève le senteur, en fait, vers une forme de beauté absolue, voilà, peut-être vers quelque chose de divin. C'est un transport, il y a juste cette idée d'être complètement absorbé et cette idée de contemplation, en fait, qui modifie juste la conscience qu'on a de la réalité. Moi, ça me fait penser aussi beaucoup justement à la transe, en fait, qui peut être créée par un rythme quand ça dure très longtemps rythmé. Au bout d'un moment, il y a une forme de transe aussi, d'état modifié de conscience.
Même de perception modifiée. Si vous écoutez la musique répétitive, je pense que c'est à Philippe Glass, les accords, on ne commence à plus les entendre pareil. Alors on a l'impression que les choses ont évolué alors qu'elles n'ont pas réellement évolué. Il y a une modification de la conscience tout à fait...
Il y a ce pouvoir de l'odeur qui était utilisé de toute façon dès l'origine. On le lit dans un des plus anciens mythes sumériens, qui est l'épopée de Gilgamesh, où justement il y a cette évocation de l'encens qui est brûlé pour honorer les dieux, mais aussi se les approprier, s'approprier l'odeur, s'approprier leur pouvoir,
leur aura.
Leur aura, exactement, qui était cette beauté lumineuse liée à l'odeur, une parure invisible en fait, qui resplendissait aux yeux de tous.
Finalement, on est en train de parler de ce que produit le parfum sur la conscience, sur l'âme, mais au bout du compte, c'est son propre corps qu'on va parer de beauté, de lumière et de sueur des dieux, pour justement aussi s'englober totalement et devenir soi-même peut-être divin, se purifier et être complètement digéré soi-même par la beauté. Se couvrir, se parer en fait physiquement et mentalement de beauté.
Ce que tu dis, ça me rappelle ces pratiques dans les rituels en Égypte ancienne où il y avait des statues, qu'elles soient de bois ou de pierre, représentatives des dieux, qui étaient considérées comme uniquement des objets. Et à partir du moment où les prêtres les massaient avec l'huile sainte, le sontaire, c'est-à-dire ce qui divinise, eh bien, l'âme du dieu entrait dans l'objet inanimé et devenait le dieu. Et cette huile comme ça qui resplendissait devenait finalement la vie qui s'incarnait. C'est aussi lié finalement à tout ce qu'on évoquait. Il y a une forme d'accomplissement dans l'odeur d'un mystère.
Oui, et puis finalement, c'est cette notion que quelque chose qui a une odeur, en fait, est vivant.
Absolument.
Alors que quelque chose qui n'a pas d'odeur, en fait, est considéré comme mort, inanimé ou diabolique, en fait.
Et le malin, c'est justement ce qui est là, ce qui divise, mais sans se montrer. C'est la dissimulation, c'est l'ombre.
Qu'on ne sent pas.
Voilà, alors que le parfum, c'est la lumière, c'est la révélation.
Il y a une citation, une phrase très importante dans la maison et qui me porte. C'est la princesse Bibesco qui avait dit à Jeanne Toussaint, en la rencontrant dans une réception probablement, « Qui êtes-vous, vous qui parfumez les diamants ?» Et cette phrase, pour moi, elle est très importante parce que, justement, elle fait un lien entre la maison et mon métier. Parce que si Cartier parfume les diamants, c'est justement que Cartier donne une âme, en fait, rend les diamants vivants. Le vrai sens de cette phrase, c'est pas que Cartier faisait pipit sur des diamants, c'est que Cartier donnait une âme, animait véritablement ces pierres qui était censé être minéral, justement, sans odeur. Donc, cette phrase, elle m'a porté depuis mon arrivée chez Cartier et m'a montré finalement que ce que je faisais chez Cartier, c'était ce que faisait déjà Cartier à travers sa joaillerie.
Après, le rapport à l'autre, il est souvent en rapport avec la relation qu'on a avec la personne. Si on aime la personne, mais même dans un rapport sexuel, l'odeur corporelle est quelque chose d'excitant. Et en même temps, le parfum, les deux peuvent se superposer tout à fait. Le moment du parfum, de la rencontre, du contact avec une personne aimée et de son parfum. Quand quelqu'un, quand vous vivez en couple, se parfume et s'en va, il y a cette présence qui est belle, je trouve.
Qui reste pendant l'absence.
Pendant l'absence, voilà.
Du coup, est-ce que tu sors des fois non parfumé? Est-ce que c'est quelque chose de possible pour toi ou est-ce que c'est impossible?
Oui, c'est tout à fait possible. Hein, quand je viens ici, c'est la deuxième fois que je viens en réalité, je ne me parfume pas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je me dis non, je ne le fais pas.
Non, mais au contraire, c'est joli de penser à ça quand tu viens me voir. Parce que c'est vrai que pour un parfumeur, en fait, on travaille dans un environnement qui doit être neutre, olfactivement justement, pour éviter d'être saturé, tu vois, sur certaines odeurs seulement. Donc, moi, je ne me parfume jamais. Et très souvent, les gens que je croise sont très inquiets, donc ils vont avoir tendance justement à se parfumer plus quand ils viennent me voir.
Pas du tout envie de me parfumer quand je viens ici, parce que je ne sais pas comment...
Forme de virginité.
Et d'arriver, c'est ça, neutre.
Voilà. Donc pour moi, je trouve très important de réhabiliter aussi le fait de ne pas se parfumer.
Comme le disait, moi, c'est une de mes citations préférées dans l'histoire du parfum, c'est cette phrase de Jean Giono, « Le parfum, c'est l'odeur plus l'homme ». C'est toujours la rencontre.
C'est pour ça que c'est très important pour un parfumeur comme moi de transmettre ce message de parure, mais on part un corps qui a le droit d'exister, qui est là, et c'est parce qu'on est humain qu'on se pare. Et on peut atteindre une forme de divinité, mais on va rester humain et autant l'accepter et autant en faire quelque chose justement de très joli et travailler avec sa propre odeur, l'accepter et la parer.
Enfin, moi, je suis assez charmé par le parfum, par l'action de se parfumer, si le parfum est bien choisi, c'est une arme de séduction, on va dire ça comme ça, enfin, un atout. Et puis, en même temps, si on est déjà séduit par la personne, c'est aussi ce qui la représente. Donc, c'est elle qui incarne le parfum. Donc, peut-être qu'un parfum qu'on aurait trouvé quelconque comme ça, il est, je dirais, exporté par une personne qu'on aime. Et dans ce cas-là, on le perçoit complètement différemment. Puisque finalement, la personne lui donne un signifié. C'est comme un vêtement et lui donne forme finalement.
Parce que justement, en fait, je pense que au-delà des goûts et des dégoûts, en fait, un parfum même qu'on aurait pu rejeter, en fait, s'il est apporté par quelqu'un qui nous séduit, en fait, c'est Bachelard qui a dit dans le passé comme dans le présent, toute odeur aimée est le centre d'une intimité. Ça veut dire qu'en fait, si la séduction est là, en fait, l'odeur va pouvoir en faire partie et être colorée justement d'un coup de foudre. Ou voilà, en fait, on va prendre l'odeur avec le flash, en fait, avec le coup de foudre. Qu'on a fait tout à l'heure quand on a vaporisé l'heure mystérieuse sur la mouillette, en fait, on a vaporisé 100% des ingrédients. Et en fait, quand on a commencé à sentir l'heure mystérieuse, oui, on avait des notes de tête, donc des notes d'encens, d'oliban, une trace infime de coriandre, voilà. Et on sentait ça. Et en même temps, on sentait bien déjà vrombir tous les ingrédients, tout le cortège. Quand on reprend la mouillette maintenant, on est donc après la tête, on va dire. On voit bien en fait que tous ces aspects un peu acidulés, aldéhydés, fusants, ces notes d'ocimène qu'on a dans l'encens, dans l'oliban et dans l'élémie, qui font vraiment partie de cette heure mystérieuse, on les a perdues en fait. On est entré dans une douceur, dans une chaleur qui va s'intensifier petit à petit. Ces notes qui se sont évaporées nous laissent maintenant entrevoir des notes florales de jasmin sambac, qui est un jasmin presque à mi-chemin entre le jasmin et la fleur d'oranger, et l'absolue fleur d'oranger. Et on découvre aussi des aspects santalés, très crémeux. On découvre des notes un peu yonones, des notes un peu irisées, synthétiques. On découvre un peu de patchouli, on découvre un peu de vétiver. Et tout ça va petit à petit s'éclaircir, en fait. Tout ce qui va s'évaporer encore comme molécule va laisser apparaître de plus en plus clairement ces notes de fond qui vont vraiment déployer toute leur rondeur, toute leur douceur, en fait, et leur volume aussi. Parce que quand on spraye au tout début l'heure mystérieuse, on a cette fraîcheur, cette fusance, cet encens très vif. Et puis, petit à petit, en fait, le sillage, c'est surtout les ingrédients de fond, les notes de fond qui vont le rendre vaporeux, volumineux, qui vont lui donner en fait sa longueur. En fait, est-ce qu'on va être senti juste dans le coup ? Moi, je dis souvent, est-ce qu'on va être senti dans l'ascenseur ? Ou est-ce qu'on va être senti dans tout Paris ? D'ailleurs, très souvent, pour faire sentir ces heures de parfum, je les fais découvrir, comme Arnaud l'a fait, comme Elisabeth l'a fait, dans des écrins que je parfume la veille, très souvent. Et donc, quand on ouvre l'écrin, en fait, on sent le cœur du parfum, ce qui permet, en fait, de savoir comment on va sentir soi-même. Parce que, finalement, cette collection des heures de parfum, je l'ai travaillée, pas pour qu'elles sentent extrêmement bon quand on la spraye, mais pour qu'elle sente extrêmement bon quand on la porte. Le parfum, s'il est une parure, en fait, il est fait pour qu'on s'empare et que d'autres puissent sentir cette parure sur nous. Donc, je le travaille comme une parure à sentir, pas dans sa salle de bain, donc pas pour les notes de tête, mais pour son sillage, pour sa, justement son cœur et son fond. Pour moi, c'est un des signes de reconnaissance de la haute parfumerie. Et c'est quelque chose que j'ai appris aussi chez Cartier, parce que les parures Cartier, les parures de haute joaillerie, sont réellement pensées pour être portées avec un extrême confort. Quand on les porte, on les sent presque pas, parce qu'elles sont vraiment travaillées pour que le porté soit extrêmement beau, extrêmement agréable et luxueux. Et en parfumerie, on suit cette même idée que c'est le porté de la parure qui va participer à sa beauté.
Le parfum doit être pensé en deux temps, finalement, le temps un peu personnel, de plaisir personnel, je disais, début narcissique, on a ce petit flash, ce petit coup d'énergie quand on le fait.
Ce petit plaisir personnel.
Et j'adore l'idée que le parfum évolue avec nous et d'avoir ce moment de stabilisation comme ça et d'évolution, je trouve ça absolument fascinant. Moi, je sais que je me mets le parfum, après, je le sens plus, puis on me dit, ah tiens, tu sens bon, enfin, parce qu'on l'oublie, son parfum.
Mais il y a une forme d'incarnation dans ce que tu disais aussi, justement. C'est ça que je trouve important dans le parfum. C'est l'appropriation et donc l'incarnation de l'odeur. Parce qu'à un moment donné, ça devient ton odeur. Et c'est beaucoup plus flatteur. Il y a un côté égotique quand même dans le parfum. C'est beaucoup plus flatteur qu'on nous dise « Oh, qu'est-ce que tu sens bon ?» que « Ah bah tiens, tu portes tel ou tel parfum. » Non, à un moment donné, le parfum devient moi, il devient mon odeur. Et ça, c'est, oui, il y a une forme de narcissisme, comme disait Arnaud, mais c'est hyper important.
Mais c'est pour ça que je trouve important et je me suis beaucoup battue pour qu'on puisse faire sentir aux gens qui achètent un parfum, qu'on puisse leur faire sentir ce qu'ils vont donner à après. Sentir. Parce que sentir un parfum au moment où on l'achète, en fait, c'est une chose. Mais on devrait presque toujours choisir un parfum pour ce qu'on va donner à sentir à l'autre.
Et il y a cette idée d'encensement, finalement. Encenser l'autre ou s'encenser soi-même, c'est bien s'élever aux yeux des autres et à commencer par ses propres yeux. Donc, il y a une façon, quand tu fais ce rituel chez Cartier, finalement, tu encenses la personne. D'ailleurs, c'était l'idée première, c'était gagner l'immortalité par le parfum. On dit souvent aussi que le parfum fait parler le silence. Donc, il habite, en fait, l'absence. Il est là, à un moment donné, où il n'y a plus rien. Et sentir le parfum d'une personne qui a disparu ou d'un lieu qu'on a quitté, sentir ce parfum, même si ce n'est pas tout à fait la même chose un parfum qu'un parfum porté, mais néanmoins, oui, on dépasse la finitude. Une fois encore, le parfum, c'est non seulement ce qui relie la terre des hommes au ciel des dieux, mais c'est aussi ce que relie les hommes entre eux et au-delà de la finitude.
Merci Elisabeth, merci Arnaud d'être venu évoquer cette heure mystérieuse avec tout votre savoir et toute votre expertise et vos univers qui l'ont enrichi. C'était un grand bonheur pour moi. Merci.
Merci Mathilde.
Merci Mathilde.
Vous avez écouté Inspire, le podcast en live olfactif de la maison Cartier.